Avant de commencer l'épisode, nous tenions à vous informer qu'il abordera des sujets sensibles, comme celui du viol et de l'enlèvement. Nous comprenons que ces thèmes peuvent déclencher des émotions douloureuses et des souvenirs douloureux. Ainsi, si vous ressentez le besoin de vous retirer ou de prendre une pause pendant l'écoute, nous vous encourageons à le faire. La santé mentale de nos auditeurs et auditrices est une priorité et nous voulons nous assurer que vous êtes à l'aise tout au long de votre expérience d'écoute. Si ces sujets vous touchent de près et que vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, n'hésitez pas à contacter des services d'aide professionnels et des organismes spécialisés dans le domaine. Vous n'êtes pas seul et il existe des ressources qui peuvent vous aider à traverser ces moments difficiles. Merci de prendre soin de vous et nous espérons que cet avertissement vous permettra de décider en toute connaissance de cause si vous souhaitez continuer à écouter cet épisode.
Bienvenue, vous écoutez Héroïne. Héroïne est un podcast qui donne la parole aux femmes qui font l'Europe. Elles vous racontent leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs échecs, et vous partagent leurs conseils.
La solidarité entre femmes, c'est aussi s'inspirer des histoires de chacune pour avancer. Alors avec Héroïne, on se demande quelle est la place des femmes à Bruxelles, un lieu de pouvoir très particulier.
Bonjour. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'une héroïne un peu particulière. Son nom, Europe. Non pas l'Union, ni le continent, mais bel et bien la princesse devenue reine de Crète. Son mythe marque aujourd'hui nos esprits. On le retrouve sur des billets de banque. Il a aussi été exploité dans l'imaginaire européen, particulièrement dans les années 50 lors de la construction européenne. Et la représentation de ce mythe est aussi présente, par exemple, devant le Parlement européen à Strasbourg, avec une statue d'Europe sur un taureau. Toutefois, nous n'en entendons pas tellement parler. Alors, connaissons-nous vraiment ce mythe et l'histoire qu'il nous raconte? Que signifie-t-il aujourd'hui pour l'Union? Quelle représentation du politique en avons-nous? Comment peut-on l'interpréter? Cet épisode fait partie d'une mini-série qui interrogera ce mythe sous différents aspects et thèmes, et on commence aujourd'hui par s'interroger sur l'universalisme, la particularité, la différence sexuelle présente dans ce mythe avec notre invitée qui s'appelle Andrea Delestrade. Elle nous livre son analyse féministe de la signification de ce mythe et elle nous parlera des différentes représentations de ce mythe et d'Europe à travers les siècles. Elle mêle représentations philosophiques, politiques et esthétiques et elle essaie d'en tirer les implications dans les imaginaires européens et ce qui pourrait dire pour une philosophie politique féministe qui est actuellement très peu présente dans le champ des études européennes. Andrea est doctorante à la LSI et à l'Université d'Essex. Sa thèse explore les contradictions de l'Europe comme espace simultanément universel et particulier. Contradictions qui sont exposées par la question de l'incarnation de l'Europe. La matérialité des corps confronte les discours, notamment phénoménologiques, d'universalisme européen et ses exclusions, en particulier sous le prisme de la race, du genre et de la sexualité. Cette discussion avec Andrea s'inscrit aussi à la suite de sa conférence qu'elle a donnée à l'Université de Saint-Louis sur le mythe d'Europe, la particularité universelle de l'Europe et la différence sexuelle. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'elle dit, la vidéo sera disponible sur le site de la chaire Jean Monnet ainsi que son article sur le même propos qui sortira dans les prochains mois. Bonjour Andrea.
Bonjour.
Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui et je suis très heureuse de voir que tu travailles sur le mythe d'Europe. Je pense personnellement que c'est important de revoir notre rapport au mythe et de les réinterroger pour mieux en saisir les enjeux.
Tout à fait.
Alors, je pense que pour commencer, on pourrait faire un petit rappel pour nos auditeurs et peut-être que tu peux nous dire ce qu'est exactement le mythe d'Europe et quelle en est l'histoire.
Oui, alors c'est difficile évidemment d'avoir une seule version du mythe, puisque un mythe c'est protéiforme par le principe. Il y a plusieurs versions qui existent, il y a Moskos, Horace, Ovide, Hérodote dans l'Antiquité. Et après évidemment il y a des réécritures modernes, par exemple avec André Chénier, du mythe d'Europe. Dans certaines versions, l'histoire commence avec Europe qui rêve la veille que deux continents qui sont des femmes en fait se la disputent. Une qui s'appelle l'Asie et l'autre qui n'a pas de nom et qui est vers l'ouest. Donc ça, c'est dans la version de Moskos. Et le lendemain, Zeus voit Europe, qui est une princesse phénicienne, fille du roi de Tyr, qui est donc dans l'actuel Liban, et il tombe amoureux d'elle. C'était déjà arrivé à la grand-mère d'Europe, qui s'appelait Io. Et Zeus avait transformé Io en génisse blanche pour couvrir un peu son méfait. Et Hera l'avait rendue folle avec un temps. Et elle avait parcouru toute la surface du globe. Donc on voit déjà que Europe et la vache aussi dans l'Antiquité sont un peu liées à des questions toponymiques, c'est-à-dire de création géographique et de continent. Donc le lendemain, Zeus voit Europe. Et Europe, elle est en train de cueillir des fleurs, qui est en fait, dans l'Antiquité aussi, un symbole de mariage et de la fin de la virginité. Et elle cueille des fleurs avec ses servantes, qui sont vierges, et c'est précisé dans plusieurs versions. Et il y a un taureau blanc qui s'approche, et donc c'est Zeus. Et il est beau, il est puissant, et il est aussi très innocent. Europe, elle s'installe sur la croupe de ce taureau blanc qui est magnifique. Et elle est immédiatement emportée dans la mer. Donc Poséidon, en fait, aide son frère Zeus à emporter Europe. Et au moment où Europe est enlevée, donc c'est un peu le premier mouvement du mythe, Agénor, donc le père d'Europe, envoie ses frères chercher Europe. Et il leur dit, tant que vous n'avez pas trouvé Europe, donc votre sœur, vous ne reviendrez pas. Et par exemple, on a Cadmos, qui est le frère le plus important, en fait, dans la mythologie de... grec qui est envoyé du coup par son père qui ne trouve pas Europe mais qui va voir l'oracle de Delphes qui lui dit de suivre une vache et cette vache s'arrête et il fonde la cité de Thèbes. Donc il l'emmène en Grèce, l'alphabet phénicien qui est souvent vu en histoire en fait comme le début de la civilisation par les traces écrites. Donc il n'a pas trouvé Europe. Zeus de son côté emmène Europe sur une île vierge qui s'appelle la Crète. Donc il l'emmène vers l'ouest, ce qui est assez important dans l'imaginaire européen. Il viole Europe et de ce viol naissent trois fils, Minos, Radamante et Sarpedon, qui sont tous les trois connus en fait pour fonder une civilisation et qui deviennent tous les trois les juges des enfers. Donc on a cette connotation de justice et de politique qui est très importante dans le mythe. Donc il y a trois mouvements dans ce mythe, il y a le rapt, donc l'enlèvement, le viol et les naissances. Et c'est un mythe qui est intéressant parce qu'il explore en fait des grands thèmes. Comme je l'ai dit, c'est un mythe qui est toponymique, donc qui vise à définir un espace géographique et politique. Il pose aussi des grandes questions en fait de la tradition européenne, c'est-à-dire la naissance de la civilisation, du politique, de la justice. Et en fait, dans la philosophie de l'Europe récente, le mythe d'Europe semble en fait préfigurer une idée d'Europe comme... un continent qui est caractérisé par une transcendance, c'est-à-dire une capacité à aller au-delà de lui-même, comme une capacité à s'arracher à sa terre, et donc qui définit l'Europe comme un passage, en fait, comme un continent qui n'existe pas en soi, mais qui existe comme le mouvement d'aller au-delà de ses frontières. Et donc, c'est un peu ça qui a commencé à m'intéresser dans ma thèse, et c'est comme ça que je suis arrivée au mythe d'Europe. Voilà pour l'histoire.
Tu nous parles de ces différentes représentations du mythe d'Europe. Et qu'est-ce que tu penses qu'on peut en tirer aujourd'hui ? Et est-ce qu'on pourrait, par exemple, réinterpréter ce mythe avec notre regard actuel ?
Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que effectivement, les représentations du mythe d'Europe, elles datent de la Grèce antique, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est une des icônes de la mythologie grecque qui a été le plus représentée dans l'histoire de l'art occidental. Et c'est quelque chose qui a eu un regain aussi à l'époque moderne, donc à partir du 16e siècle, et dans l'époque contemporaine, donc dans le XXe siècle.
On parle des représentations artistiques plutôt.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais par exemple, ce que je citais avec Denis Guénoun et Rodolphe Gachet, c'est des livres qui ont été écrits en 2009 et 2001. Donc, c'est des livres qui sont très récents et qui cherchent à se réapproprier une image du mythe. Et sans doute que ça va de pair avec un intérêt institutionnel, donc de l'Union européenne, pour le mythe d'Europe. Par exemple, il y a une sculpture au Parlement européen de Strasbourg qui s'appelle The Removal of Europa en anglais, donc l'enlèvement d'Europe mais sans connotation de violence. Mmh. Et c'est aussi quelque chose qui est cité par la Maison d'Histoire européenne, par exemple. Donc c'est un mythe qui est souvent très utilisé, mais le travail, en tout cas, du philosophe ou de la philosophe, c'est de regarder quels sont les présupposés, en fait, sous le mythe. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de regarder les représentations artistiques et de voir quels sont les messages politiques derrière.
Aujourd'hui, pour toi, quelle est la place de ce mythe dans notre quotidien et dans notre rapport à l'Union européenne ? Comment on l'utilise ?
Il est utilisé souvent, en tout cas de ce que j'ai vu dans les représentations que l'Union européenne utilise, de manière assez dépolitisée, dans le sens où il est vu comme un mythe qui n'est pas problématique ou qui ne véhicule pas des imaginaires problématiques, notamment en termes patriarcaux. Donc par exemple, la sculpture à Strasbourg, qui s'appelle « The Removal of Europa », donc où il n'y a aucune image de violence, ça décrit en fait l'Europe comme juste un continent qui voyage, sans réfléchir à la question vraiment de la migration, du colonialisme aussi européen, et du viol en tant que tel en fait. Et donc il faut vraiment visibiliser ces questions-là. Par exemple, dans les billets de banque, la Grèce aussi a édité des billets de banque en 2015, qui sont à l'image de la princesse Europe. Et ça pareil, en fait, c'est des symboles qui semblent ne rien dire. Et en fait, si on regarde le temps long ou l'histoire des représentations du mythe d'Europe, on s'aperçoit que ça véhicule beaucoup de messages politiques qui sont assez problématiques.
Cette conversation, elle se place dans le contexte d'une conférence que tu as fait à l'Université de Saint-Louis, dans le cadre de la chaire Jean Monnet, avec qui nous faisons ce podcast actuellement. Et du coup, j'aimerais bien savoir un peu ce que tu as dit dans cette conférence. Peut-être tu peux nous résumer tes grandes idées et aussi nous expliquer les différentes méthodes que tu vas utiliser, méthodes d'analyse que tu vas utiliser dans ton article qui sortira du coup dans quelques mois.
Oui, en fait, je suis partie des représentations philosophiques politiques du mythe d'Europe qui voient en fait, notamment chez Guénoun et chez Gachet, qui voient dans la figure de la princesse Europe une espèce de préfiguration de l'image d'Europe comme une figure de transcendance. Donc le fait qu'elle a été enlevée, le fait qu'elle donne naissance à la civilisation, pour eux, c'est ce qui permet de définir l'idée de l'Europe comme un espace de transcendance, c'est-à-dire en philosophie un espace qui permet d'aller au-delà de soi-même, qui n'a pas d'identité fixe et qui du coup serait universalisable parce qu'il ne représente pas une particularité identitaire en fait. Donc c'est un peu ça l'idée. Sauf que dans leur lecture du mythe, Guénoun et Gachet, ils négligent complètement le deuxième mouvement, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte l'enlèvement et la naissance, mais ils négligent complètement le viol d'Europe. Et donc, en tant que philosophe féministe, un peu, j'ai essayé de voir quel impact en fait, philosophique et politique peut avoir le viol si on le prend au sérieux de manière féministe, c'est-à-dire comme expérience vécue et comme expérience violente. Et donc, à partir de ça, je lis en fait, les représentations esthétiques notamment dans la modernité, par rapport au viol. Et en fait, je me suis aperçue que quand le viol est décrit ou dépeint, il y a deux cas de figure. En fait, soit le viol, il est complètement esthétisé, donc c'est une expérience érotique, soit il est justifié dans les conséquences que ça a. Donc, par exemple, pour l'esthétisation, on a des passages d'Ovide qui disent que les vêtements d'Europe agités d'un frisson ondulent au gré des vents, donc c'est une description qui est très érotique. Et on a des tableaux, par exemple, du Titien, de Véronèse, de Boucher, qui présentent en fait, le viol comme un rituel érotique d'Europe vers sa condition de femme et de mère. Et donc, elle est entourée de vierges, donc de ses servantes. On voit sa poitrine, son corps, il est très esthétisé, très érotisé. Et donc, ils admettent qu'il y a une violence qui se passe, et tout de suite, ils la répriment en disant que c'est quelque chose d'érotique, et que c'est quelque chose de beau, et que c'est quelque chose qui fonde la civilisation. Et donc, il y a cette image, en fait, qui est très représentative du discours patriarcal, qui dit qu'en fait, que les femmes désirent le viol, et ce qui est quelque chose de très violent.
Et de problématique.
Et de très problématique. Non seulement parce que ça véhicule une image du viol qui est complètement fausse dans l'expérience vécue des personnes qui subissent le viol, mais aussi ça dépolitise en fait Europe comme une figure qui est passive et comme une figure qui consent à tout et donc qui n'est pas un sujet politique. Et donc c'est ça un peu qui m'intéresse. Et dans le deuxième cas de figure, dans le cas où le viol il est justifié dans les conséquences qu'il a, c'est tout pareillement problématique. Donc par exemple, dans les odes d'Horace, Vénus va voir Europe qui est en train de pleurer, qui est en train de dire... qui se plaint en fait de la situation parce que c'est une situation qui est très difficile pour elle. Elle lui dit « Tu es la femme de Jupiter l'invincible, plus de sanglots, apprends à mériter ta haute destinée, toute une partie du monde prendra ton nom. » Et donc en fait on voit que Europe ici elle est nécessaire à la naissance du politique parce qu'il y a toute une partie du monde qui vit grâce à Europe, mais c'est pas un sujet du politique lui-même. C'est un véhicule du politique, elle permet de fonder le politique, mais elle ne permet pas d'exister dans le politique lui-même. Et donc c'est une intuition qui est très intéressante en fait, et qui est ce que Lucie Rigaret, donc, qui est une philosophe féministe, appelle la différence sexuelle. Donc c'est dans le discours philosophique, la femme est l'enveloppe, le contenant du politique, mais elle n'est jamais, elle ne forme jamais le sujet du politique. Mmh. Et donc ça justifie l'exclusion de la femme de l'espace public et de l'espace politique en général. Et ça se retrouve dans des représentations narratives ou artistiques, mais ça se retrouve aussi plus généralement dans l'exclusion empirique en fait, des femmes de l'espace politique dans l'histoire. Ce qui est important juste à noter, c'est que je parle de la femme entre guillemets, parce que dans la différence sexuelle d'Irigaray, en fait, c'est une méthode féministe qui permet de montrer qu'il y a une oppression d'un terme, donc par exemple le politique, sur un autre terme, qui est par exemple la femme. Mais ça ne veut pas dire que c'est la femme empirique définie de manière problématique en fait, dans les représentations par les capacités sexuelles et reproductives que le corps genré a. Donc on essaie d'avoir une analyse un peu plus nuancée et qui montre en fait que Europe... La figure féminine, genrée, c'est un support au discours d'oppression que, par exemple, le Titien, Rembrandt, Boucher peuvent avoir. D'accord. Et en fait, on s'aperçoit dans les représentations esthétiques, notamment du Titien, de Rembrandt et de Moreau, que au discours patriarcal, en fait, se superpose un discours colonial où ces trois tableaux qui ont été faits pour Philippe II, qui est un des plus grands instigateurs de la colonisation des Amériques et du génocide des Amérindiens. Rembrandt, son tableau, il l'a fait pour Jacques Spex, qui est aussi un grand marchand néerlandais dans les Indes orientales. Et Moreau a fait son tableau en 1867, donc à l'époque de l'exposition universelle de l'Europe. Et on voit que, du coup, la figure d'Europe, c'est à la fois la répression de la violence patriarcale, mais du coup, l'invisibilisation de la violence coloniale. Donc, en fait, c'est deux discours qui se superposent et l'Europe devient en fait une figure ambiguë qui est à la fois sujet du politique, comme l'Europe est le sujet de la violence coloniale qu'elle exerce, mais aussi la répression de cette violence par son érotisation, par son esthétisation et par sa justification. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de montrer dans la conférence et du coup, dire que quand on représente le mythe de manière féministe, on arrive à d'autres conclusions politiques qui sont tout aussi intéressantes.
Mais comment, toi, tu verrais ce mythe représenté aujourd'hui ?
En fait, je pense que ce qui est intéressant avec le mythe, c'est qu'il faut que plusieurs représentations coexistent et se confrontent. Parce que le mythe, c'est des images, et donc c'est des imaginaires, et c'est des visualisations du politique. Et que si on n'a pas une pluralité d'images qui s'affrontent, qui se contestent, qui se questionnent, on n'aura pas une vision de l'Europe qui lui fait justice, entre guillemets, c'est-à-dire comme un espace qui est pluriel, qui n'existe pas de manière univoque ou hégémonique. Et en fait, il y a des cas intéressants de détournement du mythe, enfin de représentation hégémonique du mythe, de manière féministe. Donc par exemple, quand il y a eu une exposition sur le Titien et sur en fait, sa relation au mythe et aux femmes, au Isabella Gardner, Stuart Gardner Museum à Boston en 2021. Et à cette représentation en fait, que tout le monde connaît du mythe, enfin, du viol d'Europe, s'est superposé un film surréaliste qui a été fait par deux artistes féministes, donc Marguerite Kelly et Paul Kelly, qui donne une voix en fait, à Europe, à la fois comme victime du viol, donc dans son expérience vécue de personnes violées et de personnes qui doivent avoir des enfants suite à ce viol. Et en même temps, il travaille aussi autour de cette question de la violence coloniale que le nom d'Europe, en fait, représente. Et donc, il superpose au discours qui était, en fait, très érotique du Titien, un discours qui est plus compliqué, plus ambigu, et qui est tout aussi intéressant. Il y a un deuxième exemple, il y a eu une peinture de Vallotton, qui s'appelle « Enlèvement d'Europe » en 1908, qui représente l'Europe de manière assez dépolitisée aussi, donc elle regarde vers l'horizon, elle n'est pas stressée, et c'est en aucun cas, enfin l'enlèvement n'est en aucun cas une violence. Et Lévidis, donc il y a un artiste contemporain grec, l'utilise en 2015-2018 pour parler de la crise des réfugiés et de la crise de l'eurozone. Et en fait, le regard vers l'horizon d'Europe, ça devient un déni de l'Union européenne par rapport à des questions humaines qui sont en fait très violentes et très, très importantes, comme la crise des exilés, la mort des exilés en mer, la crise de l'eurozone, les questions des violences de genre, etc. Donc en fait, voilà, c'est cette superposition d'images qui est intéressante. Et il faut qu'il y ait des voix qui sont non hégémoniques, donc des voix genrées, des voix racisées, des voix de personnes anciennement colonisées, qui puissent reprendre ce mythe et contester des représentations qui étaient patriarcales, coloniales, et j'en passe. donc voilà, c'est un peu ça. En fait, je plaide un peu pour un espace agonistique européen, c'est-à-dire un espace où plusieurs images de l'Europe se confrontent, quoi.
Pour revenir plus à l'Union européenne et moins sur les représentations, comment, toi, tu analyses l'utilisation actuelle du mythe d'Europe par l'Union européenne ?
En fait, je pense qu'on travaille beaucoup avec des impensés, à la fois visuels et politiques, dans les politiques symboliques en fait, que l'Union européenne met en place, et que c'est potentiellement dangereux d'utiliser un mythe de manière univoque, c'est-à-dire de l'utiliser seulement comme une histoire de transcendance et une histoire de voyage et une histoire de migration, sans réfléchir en fait à tous les présupposés et à toutes les utilisations que ça a impliqué dans la justification du projet colonial européen, par exemple, dans l'exclusion de la femme aussi en tant que telle, qui est jamais du coup un sujet du politique. Et donc, en soi, l'utilisation du mythe par l'Union européenne, c'est une utilisation qui est très consensuelle et qui se base pas sur l'histoire profonde de l'Europe, comme une histoire en fait qui a été très violente et qui doit se responsabiliser dans la violence inhérente aux politiques, qui est en fait quelque chose de plus global. Hein. C'est pas seulement seulement l'Europe qui questionne ça en fait, mais c'est une responsabilité collective. Et donc peut-être en fait titiller les institutions européennes sur qu'est-ce qu'en fait ce mythe veut dire dans l'histoire profonde de l'Europe et pas seulement dans l'Union européenne, donc dans l'histoire très courte de la construction européenne. Ça permet aussi de rattacher des imaginaires institutionnels à en fait des imaginaires politiques plus profonds et d'insérer l'Union européenne dans une question plus verticale, dans le sens où on ne s'arrête pas à la construction européenne pour débuter l'histoire de l'Europe.
Enfin, tu ne penses pas que justement ce mythe symbolise toute la violence profonde que l'Europe a connue avant, et c'est pour ça que l'Union européenne l'adopte un petit peu comme mythe fondateur pour représenter toutes ces violences et dire que justement le projet européen arrive avec une nouvelle, un nouveau souffle de vie après toute cette violence vécue par les Européens et par l'Europe, au final.
Oui, mais ça a été quelque chose qui est très, très intéressant dans la construction européenne, et il y a un article de Pocock en 1992 qui écrit dessus sur le fait que l'Union européenne essaie d'effacer ou de se détacher en fait
de cette
violence et de cette histoire complexe en disant nous on fait table rase et on n'est pas concerné en fait par le colonialisme parce qu'on n'existait pas avant, ce qui est faux. Parce qu'évidemment, en 1945, il y avait encore des empires. Et en 1950 aussi, et jusqu'en dans les années 70. Donc en fait, c'est aussi... Ce qui est très intéressant en fait, dans le mythe, c'est que c'est un heuristique, c'est-à-dire un outil pour remettre sur le tapis des questions politiques, pour visibiliser des questions, pour dire, ça, c'est un discours patriarcal, ça, c'est un discours colonial. Comment est-ce qu'on fait pour questionner ça, rendre ça visible et proposer des alternatives, en fait, qui soient radicales et des imaginaires différents, qui soient féministes, par exemple, au mythe d'Europe. Et ça permet, du coup, de responsabiliser un peu l'Europe en tant que telle, comme concept et dans sa version institutionnelle. Et c'est ça qui est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables de tout, mais ça veut juste dire comment est-ce que les discours se recoupent. Et c'est ça qu'on questionne, nous, de manière théorique.
Merci, Andrea.
Merci à toi.
Merci.
Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il viendra vous questionner. Si vous voulez en savoir plus sur ce que dit Andrea, vous pourrez retrouver la vidéo de sa conférence sur le site d'EUgendering, eugendering.eu. N'hésitez pas à venir sur Instagram ou Thread pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et aussi ce que vous pensez du mythe. Nous serions ravis d'avoir votre point de vue. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Ah oui, pardon, j'oubliais. Je vous laisse avec quelques commentaires audio qui ont été faits après la conférence qu'Andrea a donnée. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et nous reviendrons en janvier pour de nouveaux épisodes. À très bientôt.
Très belle conférence sur la, d'abord la déconstruction du mythe d'Europe. Voilà, très riche sur l'imaginaire européen, mais je pense que voilà, politiquement c'est aussi assez intéressant d'avoir ce contre-mythe et ramener au fond la question de la violence et au-delà de la domination hein, dans la construction des formes politiques. Voilà, je trouve que c'est la belle leçon pour pas ne pas se faire endormir précisément par les mythes et essayer de comprendre qu'ils peuvent être l'occasion d'une réflexion critique et politiquement productive, parce que la cause des femmes probablement vaut qu'on ait une interprétation plus proche de celle qu'on a entendue cet après-midi que celle qu'on entend ordinairement.
Non, mais c'est intéressant de voir les multiples réactions que ça provoque. C'était en tout cas de commencer la série de séminaires par ce mythe-là et par cette discussion des interprétations conflictuelles du mythe. Voilà, ça c'était, je trouve que c'était une bonne façon de commencer.
Non, mais pour le coup, par contre, moi je suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que le mythe soit simple, parce qu'en fait il est ultra complexe justement par tous les personnages qui sont autour et tout ce qui en découle en fait. Et on. Enfin, Radamant,
oui,
c'est les lois
Cadmos,
de.
Par exemple,
et Cadmos, la fondation de
Thèbes. Ils disent que Cadmos, c'est le premier migrant libanais. Enfin, il y a plein de. Donc, il y a des usages. Après, voilà, peut-être que c'est des petits cercles. Mais aussi, je sais qu'au Liban, dans cette réflexion du rapport du Liban à l'Europe, etc., Cadmos, ils disent voilà, c'est un Libanais qui a fondé Thèbes. Enfin, c'est aussi.
Mais aussi, quand on regarde dans les autres frères d'Europe, ils fondent aussi d'autres villes qui sont moins connues que celles de Cadmos, parce que Cadmos est considéré comme fondateur de la maison des, je crois que c'est les et du coup il a de l'importance et il est aussi considéré comme le premier héros parce qu'il combat un dragon avec l'aide d'Athéna, mais enfin c'est quand même ouais assez au final beaucoup plus que juste ouais.
Mais il y a forcément plein de couches quoi.
Bah il y a forcément plein de couches, mais au final ce qu'on retient d'Europe c'est vraiment que ces trois couches, et après on entend plus parler, et même dans la vision de la femme,
tout ce qui est autour,
enfin elle se fait enlever, violer et elle donne naissance à des triplés. Donc très violent aussi, et au final après il y a plus rien de son histoire.
On ah oui,
n'a
qu'est-ce, plus...
qu'elle qu'est-ce qu'elle devient,
elle est là
qu'est-ce
qu'elle devient,
voilà.
Et c'est elle est juste
moi
là
je trouve
pour
que
fonder
c'est violent dans ce sens-là quoi, en plus.